Le déversoir, chapitre 2.
Tout à coup, un claquement très fort comme une détonation interrompt le monologue de Simon. Malgré les effets du cannabis sur leur organisme, les trois garçons bondissent sur leurs pieds comme s'ils étaient montés sur ressort. Le bruit provient du même endroit désigné un instant plus tôt par Simon, et ils regardent tous dans cette direction. Antonin, dont le courage ferait blêmir plus d'un dompteur, fait deux pas en avant. Un pas pour montrer à ses compagnons qu'il n'entend pas se faire impressionner par une souche qui craque, et un autre pour dominer son appréhension.
« Vous avez entendu ?»
chuchote Simon.
« On n'est pas sourd !»
répond Antonin d'une voix normale.
« J'ai entendu le même craquement tout à l'heure. Mais si, vous ne l'avez pas entendu la première fois. C'est forcément que ça s'est rapproché. »
« Joli raisonnement, Simon. Tu as d'autres révélations à nous faire? Parce que si... »«
Ta gueule, Tanguy !»
ordonne Antonin. « Attrape la frontale. Simon, tu peux augmenter la flamme du feu ?»«
Négatif, on n'a plus de pommes de pin. »
Tanguy balaye le périmètre du camp avec sa lampe. Le faisceau éclaire les arbres et fait pâlir les ombres. Un autre craquement, moins fort, se produit encore plus près.
« Qui est là ?»
menace Tanguy en brandissant un piolet.
« Si je t'attrape, je te défonce le crâne. »«
Comment tu sais que c'est un homme ? C'est peut-être une bête ? Ou un animal ? Parce qu'entre bête et animal, je préfère animal. On peut approuver cette terminologie à main levée ?»«
Ta gueule, Simon !»
Antonin s'énerve.
« Ce n'est peut-être rien, après tout. En forêt, il y a toujours du bruit et... »
« T'entends des bruits, toi ?»
fait remarquer Tanguy.
« Je n'ai jamais rencontré d'endroit plus silencieux que cette forêt depuis qu'on a quitté le torrent. »
Son jugement s'avère juste. Antonin réalise qu'il a ressenti ce trouble après son réveil près du torrent. Depuis qu'ils ont commencé l'ascension de la montagne, le silence les a accompagnés, et les sons qui leur parvenaient provenaient de très loin. Ces craquements n'appartiennent pas à la respiration habituelle d'une forêt, mais au contraire sont le fait d'un déplacement furtif.
« Qu'est-ce qu'on fait, Antonin ?»
chuchote encore Simon. À ce moment précis, un hurlement terrifiant leur vrille les tympans. Antonin réprime un cri de surprise. Les cheveux de Tanguy se dressent tout droit sur sa tête. La lampe et le piolet lui échappent des mains. Simon, lui, croit se liquéfier. Presque instantanément, leur grande surprise se mue en une peur irrépressible. Simon déguerpit en premier. Il se rue instinctivement dans la descente, bientôt suivi d'une courte longueur par ses compagnons. Leur fuite éperdue les conduit tout droit dans une combe étroite où ils n'ont d'autre choix que d'en dévaler le fond. Au bout d'un demi-kilomètre de course, ils tombent contre un promontoire rocheux très escarpé. Sans même se concerter, ils l'escaladent comme des babouins surexcités et se réfugient sur une espèce de saillie rocheuse plane dont les dimensions paraissent assez vastes pour s'allonger en sécurité au-dessus du vide. Mais pour l'instant, ils sont à quatre pattes et scrutent anxieusement les ombres du fond du ravin. Un silence pesant les enveloppe depuis leur arrivée tonitruante.
C'est rassurant, puisque ni rien ni personne ne les a suivis.
Et angoissant, car rien n'est plus désagréable que d'entendre battre son cœur quand on est sur le qui-vive. Au bout de sa longue minute d'affût sous tension, ils commencent à se relâcher, puis finissent par s'adosser contre le rocher. Ils se sentent vidés par leur course folle parmi les arbres, et par le stress intense qu'ils viennent de vivre. Leur besoin d'évacuer se manifeste presque simultanément.
« Ce cri n'était pas celui d'un animal, »
affirme Antonin sur un ton de chef scout.
« Je ne le crois pas non plus. »
Tanguy abonde avec une gravité qui ne lui est pas coutumière. Il croise les doigts sur ses genoux pour y appuyer son menton.
« Humain, alors ?»
fait Simon qui se demande intérieurement ce qu'il fout là. Le leader plie ses jambes et les enlace de ses bras. Cette attitude révèle une confusion intérieure.
Personne n'habite le coin pourtant. Je ne crois pas une seconde qu'on nous ait suivis. Faire tout ce chemin pour nous mettre les chocottes? Non, c'est impossible.
Simon réplique. Il y a peut-être ici un coin d'ermite qu'on a dérangé et qui veut nous faire déguerpir.
Bof, le plus sûr moyen de faire déguerpir des randonneurs, c'est au contraire de les laisser bivouaquer pour la nuit plutôt que de leur flanquer la frousse au milieu de la nuit.
Objecte Tanguy.
T'as pas tort. Mais qui dit que ce con d'ermite n'est pas en train, à l'heure où je te parle, de se ravitailler avec le contenu de nos sacs qu'on a laissés derrière nous?
1-0 pour toi.
On n'aurait pas dû se tailler comme des gonzesses, avoue Antonin. Ok, j'ai eu peur sur le coup, mais la surprise a fait le reste. Un cri dans la nuit au milieu de la forêt, il y a de quoi mettre les foies, non?
Ils acquiescent en grimaçant ou en secouant la tête. Antonin crache en direction du ravin.
Ça me rappelle la fable du tigre et de l'âne, se souvient Simon.
La fontaine ou les frères Tang? Arrive à plaisanter Tanguy.
Je vois que tu reprends du poil de la bête.
Alors, c'est quoi ta fable?
De mémoire, alors. Dans la jungle, apparaît un âne. Animal que le tigre voit pour la première fois. Il s'approche prudemment. Dès que l'âne l'aperçoit, il pousse un braiement sonore. Le tigre prend peur et s'enfuit. C'est la première fois qu'il entend un cri pareil. Mais sa nature de carnassier reprend le dessus. Il se rapproche à nouveau de l'âne, qui se remet à braire. Là-dessus, le tigre comprend que l'âne est inoffensif, bien que son cri soit effrayant pour qui l'entend la première fois.
« Comment ça se termine ?» demande Simon.
« Le tigre le boulotte. »
« Ah, mais nous, on est qui dans ta fable ?»«
On a cédé à la panique, » martèle Antonin. « Il y en a pour des centaines d'euros de matériel là-haut. » Et ça me ferait rudement chier de le perdre.
Tanguy se gratte la tête, émet un claquement de langue et se met à penser tout haut.
Ce n'était pas un cri animal, mais même pour un cri humain, ça reste bizarre. Je veux dire que c'était tellement fort. Enfin, un être humain est-il capable de pousser un cri aussi fort?
Avec un porte-voix?
Peut-être. Un porte-voix à pile,
tente Simon.
Un ermite avec un porte-voix à pile, fou d'escalade?
Je vois, nous avons affaire à un original.
Puis en se tournant vers Antonin. Écoute, mon pote, là-haut, c'était pas humain non plus.
Un lourd silence plombe l'atmosphère.
Antonin est pris de tics nerveux. Simon renifle, bien qu'aucun pollen ne l'incommode.
Humain ou pas humain, il faut se tirer d'ici.
Antonin ne peut s'empêcher d'être directif. On rebrousse chemin?
S'enquiert Simon.
Allô, on récupère nos affaires et on suit le planning. Demain soir, on sera sur la crête. Hors de...
Ses paroles restent en suspens.
Moi, je me casse en canoë, avertit Tanguy.
Antonin le foudroie du regard. Il n'a pas l'habitude qu'on le contrarie dans ses plans, mais il a l'intelligence d'éviter la confrontation. Il sait qu'avec le jour, ils lui donneront raison. La sagesse déteste la pénombre.
Ok, voyons comment nous récupérerons de cette nuit et on prendra une décision demain.
Le silence en retour est signe d'acquiescement. Il s'allonge, sauf Antonin qui prend le premier quart. Tout en inspectant les ténèbres, il réfléchit sur l'origine du cri. Il lui semble que sa note de détresse était évidente, mais personne ne l'a relevée. Le lendemain, les trois garçons s'éveillent très tard. Simon a pris le dernier quart, mais s'est endormi. Il est pris de honte, d'autant plus que le temps a tourné au mauvais. Il n'y a plus de temps à perdre. Antonin leur explique que la géologie locale est une succession de plissements de terrain et évoque l'ondulation du nappage de la crème chantilly. En descendant la rivière, il a enregistré de manière instinctive la configuration du terrain, comme fait tout alpiniste quand il s'apprête à gravir une voie qu'il ne connaît pas. La combe dans laquelle ils sont actuellement conduit directement à la rivière, et en suivre la berge représente une perte de temps cruciale avec le temps qui vire à l'orage. Le plus rapide est de couper à travers les bois. Tout d'abord, ils escaladent le « mur » du ravin qui ne requiert que peu de technique. C'est un jeu d'enfant pour des grimpeurs hors pair comme eux. Ils gagnent la ligne de niveau supérieur et s'appliquent à trotter entre troncs d'arbres et fondrières afin de rattraper le retard. Puis, comme l'a imaginé Antonin, ils basculent dans le plissement suivant au fond duquel coule le torrent qu'ils ont remonté la veille. Tanguy a insisté pour récupérer les pagaies avant de rallier le camp. Il veut anticiper toute mauvaise surprise et voit dans sa pagaie une arme de premier choix. Cette obsession témoigne de sa mauvaise nuit et de la faim qui le tiraille. Ils arrivent enfin au torrent. Le canoë se situe en amont. Quelques minutes plus tard, Antonin, qui marche une dizaine de mètres en tête, s'immobilise brusquement. Intrigués, les deux autres le rejoignent et se rangent à ses côtés. La vision du tableau les stupéfie. Il ne reste à peu près rien de leur canoë, du moins de sa forme initiale, sinon des débris épars. On aurait juré qu'il était passé entre les mâchoires d'une déchiqueteuse. Et le plus étrange, des échardes sont fichées profondément dans les troncs alentour. Le gros des débris a été répandu comme projeté par une centrifugeuse en un cercle presque parfait. La corde avec laquelle le bateau était attaché pend mollement le long du tronc d'arbre. Les gilets et les pagaies, quasi intacts, n'ont pratiquement pas bougé de leur place initiale, comme si le canoë avait explosé au-dessus d'eux, remarquera plus tard Tanguy, non sans inquiétude. En proie à un grand trouble, Antonin se terre dans le silence. Même si, à leur réveil, Tanguy a renoncé à fuir par la voie fluviale, il paraît évident, à présent, que cette alternative se gomme d'elle-même. « Je ne suis pas de nature paranoïaque, mais je crois qu'on nous cherche. » Croit bon de plaisanter Simon, mais sans entrain. « Écoutez, fait Antonin, il y a un truc qui ne tourne pas rond ici. Il faut qu'on dégage la zone, vite fait. »« Attends !» crie presque Tanguy. « Qu'est-ce qui tourne pas rond ?» Antonin ramasse les trois pagaies et les leur distribue en les lançant. « Il y a du paranormal ici, si tu veux le fond de ma pensée. Et le paranormal, c'est quand on ne peut pas expliquer les choses de manière rationnelle. Voilà !» Simon hausse les sourcils pour exprimer sa consternation. « La forêt est hantée ?» Tanguy formule à haute voix les pensées d'Antonin. « C'est ça, le paranormal ?»« Ouais, c'est ça, le paranormal. Ce coin est pourri. Plus vite on dégagera et mieux on se portera. »« Putain, tu déconnes ou quoi ?»« Et le canoë, Tanguy, t'en fais quoi du canoë ?» intervient Simon en frappant un débris avec sa pagaie. « Et d'ailleurs, je te rappelle que tu disais que le cri n'était pas humain non plus. » « Mais c'est du délire! On nous fait une sale blague, mon pote! Tout ça !» Il fait un geste semi-circulaire avec sa pagaie. « C'est une putain de mise en scène! Alors, on va monter là-haut. Et si je trouve le petit rigolo qui joue avec mes nerfs, je te jure que je lui pète sa putain de gueule !» Il mime la scène en frappant l'air de sa pagaie. Antonin se borne à le regarder. Il devine la trouille qui lui serre les tripes. Quand ils abordent des difficultés en escalade, Tanguy fait toujours le fanfaron pour dissimuler son stress. Mais il y va. « Vous êtes prêts, les gars ?» Antonin sonne l'heure du départ. Ils s'ébranlent en silence.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le cœur n'y est pas. Chacun d'eux n'a qu'une idée en tête, foutre le camp. Le temps est de plus en plus menaçant. Il leur semble entendre, au loin, le roulement du tonnerre. La lumière décline à cause des nuages qui virent au noir. Cette ambiance, ajoutée au silence sépulcral, entame leur réserve d'optimisme pour le restant de la journée. Antonin jure entre ses dents. Il a la désagréable sensation de ne plus maîtriser les événements. Il n'arrête pas de penser aux cris et au lien qui peut exister avec la destruction du canoë. Quelle violence dans la destruction! Est-ce un avertissement? Un avant-goût de ce qui les attend? Il refoule cette idée. La peur est mauvaise conseillère, dit-on. Ils vont quitter les lieux. Un soupçon concernant la forêt germe dans son esprit. Simon aperçoit en premier la tente. Elle est à sa place. Ils s'approchent avec prudence en balayant du regard les alentours. Rien ne leur semble anormal. Ils se détendent. On n'a rien déplacé. La lampe, le piolet, la casserole, les assiettes sont à la place qu'ils occupaient la veille. Le matériel d'escalade intact et le stock de nourriture également. Ils se font sur le champ des sandwichs avec du pain de mie et du jambon. Tanguy avale ses bouchées quasiment sans les mâcher. Tous meurent de faim. Ils se partagent des fruits et du chocolat et la dernière bouteille de bière. « Je n'ai pas de réseau », se désole Simon la bouche pleine. « Le contraire m'aurait étonné », dit Tanguy en rotant. « Putain que c'est bon de baffrer !» Ils s'étirent machinalement. Manger les a rassérénés. Mais à peine ont-ils le temps d'apprécier le plaisir d'être repus qu'une averse se met à tomber sans crier gare. Ils se réfugient sous la tente en proférant des jurons. Longtemps redouté, l'orage finit par éclater. La pluie redouble de violence, les éclairs et le tonnerre se mettent de la partie. À l'intérieur de la tente, la clarté a diminué, mais pas au point d'effacer les traits tirés des visages. Les éclairs rendent l'atmosphère encore plus étrange. On dirait que le plafonnier imaginaire de la tente accuse des baisses de tension du réseau. Dans un sens, il vaut mieux que l'orage éclate maintenant. Même si les risques d'être foudroyés sont infimes, les alpinistes n'aiment pas être surpris par l'orage en pleine ascension ou même en descente. La pluie martèle la toile de tente avec un vacarme assourdissant. En forêt, les frondaisons atténuent habituellement la force de la pluie. Mais là, les trois garçons ont une impression différente. D'abord, la vigueur décuplée de l'eau qui les bombarde. Puis le fouettement de la toile. Elle ploie bizarrement et de toutes parts à la fois. Heureusement, elle garde sa convexité de tente igloo et ne menace jamais de s'effondrer. Cette bizarrerie dure une bonne demi-heure. Pendant tout ce temps, la crispation a atteint son comble à l'intérieur de l'habitacle. Tanguy a sorti son couteau de brousse et les deux autres en font autant avec leurs laguioles respectifs. Ils gardent le silence, prêts à bondir ou à n'importe quoi d'autre. Quand la pluie se met à tomber normalement, mais sans pour autant mollir, ils retrouvent l'usage de la parole pour asséner des banalités au sujet du mauvais temps. Bien que solide et imperméabilisée, la toile finit par laisser filtrer de l'eau par ses fibres réputées hydrophobes. Des gouttelettes se forment, grossissent, puis, entraînées par la gravité, s'écrasent sur la tête et les épaules des grimpeurs. Ils revêtent leur Gore-Tex. Tanguy revient sur l'épisode du canoë avec un raisonnement logique. « Il faut être dingo pour effriter un canoë en mikado pour géant vert. C'est débile. Il valait mieux le cacher ou le découper en deux à la tronçonneuse. L'effet était garanti. Et puis, pourquoi avoir épargné les gilets et les pagaies? Remonter une rivière, c'est déjà pas simple, mais sans pagaies, ça devient mission impossible. Il y a un truc que je ne pige pas. » « Parce que tu ne veux pas piger, » réplique Antonin. Ses pupilles sont dilatées à cause de la semi-clarté.
« Ah bon ?»
Tanguy feint l'étonnement. « En venant ici, j'ai eu un flash tout à l'heure. » Il observe tour à tour ses compagnons, puis fixe Simon. « Tu es à l'origine de ma théorie. Rappelle-toi, hier. »«
Tu veux dire, il y a une éternité ?»
corrige Simon avec une voix pleine d'amertume. Tous ont ce même sentiment. Antonin reprend.
Quand on est tombé sur la harde des sangliers, aucun d'eux n'a fui. Je crois même qu'ils étaient plus surpris qu'apeurés. Et ensuite, on a vu une kyrielle d'animaux comme je n'en ai jamais autant vu en une seule journée. Et ça, c'est extrêmement bizarre. Pour moi, c'est la preuve que les chasseurs ne viennent pas par ici. Ces animaux n'ont pas une peur innée de l'homme. C'est pour ça qu'on en a vu autant. Habituellement, ils vivent cachés le jour, sortent la nuit, et en tout cas ne se montrent jamais à l'homme. Et je dirais même plus. Les hommes ont très peu parcouru la région. Je n'ose même pas dire « n'y ont jamais mis les pieds ». Ça me met des frissons rien que d'y penser. Vous ne trouvez pas bizarre que la rivière n'ait pas de nom ? N'est-ce pas une preuve de l'isolement de la région ? C'est quand même sidérant que dans ce pays, il existe un coin comme celui-ci, éloigné de tout, et qui a échappé à l'occupation de l'homme. Je donnerais beaucoup pour savoir combien de fois la rivière a été descendue ces 10 dernières années.
Ouais, mais... Attends, ça c'est le premier point. Le deuxième point survient quand on quitte le torrent pour s'enfoncer en forêt. Là, plus de bruit, tout devient silencieux. Plus d'oiseaux, d'insectes ou de cris d'animaux. Exactement le contraire de ce qu'on a ressenti sur la rivière. La forêt est monumentale, comme on l'imaginait. Les arbres sortent tout droit des films Disney. Hier, j'ai même pensé qu'on était dans une forêt primaire. Pourtant, tout semble mort, immobile, silencieux. Pourquoi ? Il fixe à nouveau Simon, qui peut voir dans son regard une lueur d'excitation. « C'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille. Rappelle-toi ce que tu as dit après l'épisode des sangliers. »«
Je ne m'en souviens plus. »«
Tu as dit exactement « Il ne faut pas rompre l'équilibre. » »« Après avoir fait semblant de tirer sur les sangliers. »« Tu te souviens à présent ?»
Simon ne se rappelle plus avoir prononcé ces paroles. Mais elle reflète bien son état d'esprit de la veille.
Eh bien, nous avons profané les lieux.
Après les événements mystérieux qu'ils viennent de vivre, et dans le contexte du confinement de la tente, cette déclaration tombe comme un coup de massue. Tanguy écarquille les yeux, et Simon sent un glaçon lui parcourir le dos. La toile de tente continue de subir les assauts de la pluie qui décidément ne faiblit pas. Il leur est toujours impossible de sortir, encore moins de grimper, et leur tourne.
Vous voyez, les gars, je pense que nous sommes indésirables dans cette forêt. Si le canoë a été détruit, ce n'est pas pour nous expliquer qu'on est retenu ici. Au contraire, le canoë est le symbole de la profanation. C'est lui qui nous a transportés jusqu'ici. Et je pense que si la forêt a détruit le canoë, elle pourrait bien en faire autant avec nous.
« Et le cri ?»
bredouille Simon désorienté. « Le cri n'était pas menaçant, à mon avis. Il exprime autre chose, un genre de souffrance. Je crois que c'est lié à nous. On veut vraiment nous rejeter. »
« Et... c'est le paranormal qui veut nous expulser ?»«
Oui, pour une raison que j'ignore, ou presque. »«
Ou presque ?»
Tanguy fait écho pour marquer son scepticisme. Antonin se masse la base de l'arête du nez avec son pouce et son index avant de répondre.
« Je n'en sais rien, mais j'ai le pressentiment qu'il faut chercher en nous. »«
Je ne te suis pas, » dit Simon. « Tu es en train de dire que nous représentons une espèce d'antithèse à ce qui règne ici ?»«
En quelque sorte. »«
Et pas si vite !»
Tanguy résiste.
Nous serions coupables de quelque chose ?»
L'objection les rend muets un instant. Au fur et à mesure que se construisait l'hypothèse d'Antonin, ils s'étaient regroupés en cercle, assis en tailleur, comme autour d'un talisman qu'ils chercheraient à faire parler. Il s'épit de longues minutes, attendant que l'un d'eux veuille bien se mettre à table. Du moins, c'est l'impression qu'il donne. D'une pâleur de spectre, Tanguy est le premier à réagir. « Alors, selon toi, le paranormal, c'est la forêt ?»
J'ai dit la forêt comme j'aurais pu dire les esprits de la forêt, les djinns, les elfes. Je n'en sais rien, après tout. Ne cherchez pas à vous représenter ceux qui cherchent à nous expulser. C'est franchement pas le problème. On doit quitter cet endroit, point barre.
Quand il prononce ces paroles, des paquets d'eau provenant des frondaisons s'écrasent par intermittence sur la toile. Le vent secoue la cime des arbres. On les entend grincer malgré le bourdonnement de la pluie.
J'hallucine. Cette histoire de profanation, dit Antonin. T'es pas en train de déconner avec nous?
Ok. Je me souviens d'une Vietnamienne qui voulait jamais baiser dans les bois. Elle avait la pétoche des fantômes, qu'elle me disait. Une superstition ou un truc du genre. Mais toi, Antonin, tu peux pas croire à un truc pareil. C'est pas rationnel, merde.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas rationnel. Que veux-tu que je te dise de plus?
Le ton monte d'un cran.
C'est rationnel, le canoë, peut-être? Tu penses qu'un type l'a émietté avec son petit canif, puis a disposé les fragments en un cercle parfait? Sans parler des échardes, qu'il a soigneusement plantées dans les troncs d'arbres pour en faire un joli ensemble. Toi-même, tu as dit qu'il avait explosé. Explique-moi la rationalité là-dedans.
Antonin fulmine, les poings serrés, et il ajoute avec une rage contenue.
Et si je te dis que c'est lié à nous? C'est que c'est lié à nous.
Simon fait diversion.
C'est bon, on a compris. Inutile de s'énerver. On est assez dans la mouise comme ça. Putain, il est déjà plus de 5 heures. Dès que l'orage s'arrête, on dégage la zone. Tant pis, on grimpera au clair de lune s'il le faut.
Grommelle Antonin.
Si la chance veut que le ciel se découvre.
Tanguy parle à voix basse comme dans un confessionnal. Ils mangent un morceau avant de ranger pour la énième fois leur paquetage. Ils se mettent d'accord pour sacrifier le matériel de camping. Réchaud à gaz, vaisselle, tente, matelas mousse et aussi une partie du matériel d'escalade comme les crampons, faciles à retrouver en occasion. Ils partagent équitablement les dégaines et les cordes. En effet, il est hors de question de grimper sans s'encorder, qui plus est par temps humide. Ils veulent voyager léger et quitter les lieux le plus rapidement possible. Antonin ne les a pas du tout rassurés avec son histoire de profanation. Ça sonne cimetière et revenant. Ils prennent avec eux le strict minimum. Mais la pluie tombe à verse pour leur plus grand malheur. Ils se retrouvent pris au piège comme des rats dans une nasse diabolique. Le jour laisse bientôt place au crépuscule tant redouté. À présent qu'il fait noir, chacun d'eux a ceint sa propre lampe frontale. L'attente les rend moroses et taciturnes. Ils feignent de s'occuper pour ne pas tendre l'oreille. D'ailleurs, la pluie se mue en une bulle protectrice, croit-il avec une ferveur secrète. Antonin, qui paraît le plus embarrassé, se met à faire craquer ses jointures.
« Écoutez, il faut que je vous parle de quelque chose, de très personnel, et qui a peut-être un rapport avec notre situation. »
Les autres cessent leurs activités sur le champ et le regardent avec une curiosité inquiète.
Tout à l'heure, je me suis peut-être emporté trop vite. Quand je faisais allusion à notre invasion dans cet espace si particulier, si bizarre même, je pensais surtout à moi. Je crois que je suis concernée. À moins que... Enfin, je n'ai peut-être pas ma place dans ce lieu. C'est pas facile à dire. Et c'est même la première fois que je parle de mon père à quelqu'un.
Même Nina n'en a jamais rien su.
Qui, mieux que sa propre mère, peut affirmer que l'enfant qui grandit en son sein est un être dénué d'amour? C'est le sentiment que nourrissait la grand-mère d'Antonin pour son père. Sur la photo de mariage accrochée sur le mur du salon, ce dernier porte une fine moustache et pose vers le photographe un regard d'une terrible vérité sur le destin de sa mère. Elle qui exprime au contraire une joie non feinte d'être mariée et un désir de perpétuer la famille nucléaire traditionnelle. Nul ne savait encore qu'Antonin mettrait un terme à la saga libanaise. Le sourire carnassier du père, exposé à la photographie, condensait une idée politique fondée sur la domination sans partage. Pour cet homme, la démocratie était une vulgaire réclamation politique d'une société sans chef, un déshonneur que ces traîtres de progressistes faisaient endosser à tous les Libanais. Au cours d'une mission avec ses amis phalangistes dans Beyrouth Sud, le père avait été sérieusement blessé au bassin. S'en était suivi un départ précipité pour la France, officiellement pour des raisons d'ordre médical. Le provisoire devint définitif quand il reçut par colis une magnifique canne avec un pommeau en jadéite pour service rendu. Ce cadeau signifiait que sa carrière politique à Byblos était finie. Plus tragique, son retour était espéré par des factions de combat résolues à la vendetta. Il s'enferma progressivement dans une mélancolie dont les paroxysmes coïncidaient avec une brutalité sans limite envers sa femme. Il boitait, il exécrait la mère de son fils, et dans son exil suspect chérissait toutes les bombes qui s'écrasaient sur le cèdre du Liban. Il en pleuvait tous les jours pendant la guerre. Sa mère hurlait une fois sur deux, puis ça passait. Cette fois-ci, les hurlements avaient duré derrière la porte de la chambre. N'y pouvant plus, Antonin avait ouvert la porte sans frapper. Étendu sur le lit, sa mère geignait et se cachait le visage, les cheveux noirs emmêlés dans ses doigts. Son père, quant à lui, essayait de se maintenir sur ses deux jambes. La canne en cèdre gisait sur le sol. Parce qu'elle adoptait cette position typiquement méditerranéenne de soumission, Antonin n'arrivait pas à libérer ses sentiments pour sa mère. Tantôt il la méprisait, tantôt il la prenait en pitié. Il ne comprenait rien aux relations des adultes et pensait par ignorance qu'elle devait être en partie responsable du caractère violent de son père. Ne disait-elle pas, toujours à prendre sa défense, que la malchance l'avait tourmentée et que les phalanges de Guémaïel l'avaient dupée? Son père l'invita à entrer. D'habitude, il lui aurait intimé l'ordre de dégager. Il lui demanda de ramasser sa canne en lui jetant un regard d'une rare mais grotesque solennité. Antonin retint la canne dans ses mains qui commençaient à trembler. Dans la langue arabe qu'il utilisait quand ses tempes battaient au rythme du cœur, son père lui asséna dans le pur style d'homme politique proche-oriental une vérité liée au dressage incomplet de sa mère. Le champ visuel périphérique d'Antonin lança des éclairs et des ombres, gommèrent les limites de la chambre. Il en avait plus qu'assez de cette culture du Moyen-Âge en complète contradiction avec le mode de vie qu'ils avaient trouvé en s'installant ici. Aussi lâche que sa mère pouvait être, il ne tolérait plus l'acharnement sans raison de ce fêlé. À 14 ans déjà, Antonin pouvait faire 4 tractions avec ses index sur une poutre spéciale d'entraînement. Il poussa sans effort son père qui atterrit sur le lit à côté de sa mère. Ces deux-là regardèrent leur fils complètement stupéfié. La voix du père tonna. Les formules imprécatoires remplirent la pièce. L'infirme chercha à pivoter sur le ventre. Son bassin n'obéissait pas comme il le voulait. À peine y parvint-il qu'une douleur explosa dans le bas du dos. Elle se propagea dans les jambes et la colonne comme des geysers de glace. Il allait hurler quand une deuxième salve douloureuse noya la première dans un déluge de décharges électriques. Il sentit cette fois le dos s'embraser.
Les coups se succédèrent à un rythme rapide. Il perdit connaissance, juste avant de comprendre que sa colonne avait cédé au niveau des lombaires. Les autres se tiennent quoi ? Simon serre les poings, Tanguy se mordit la lèvre. Quelques minutes passent ainsi dans un recueillement troublé par le crépitement de la pluie sur la toile. L'air s'est rafraîchi, supprimant le dernier confort de la tente. Simon dénoue ses mains exsangues et met une tape amicale à Antonin qui maintient la tête baissée. « La charge du passé nous pète à la gueule !» philosophe-t-il. « Et je suis autant concerné que toi. » Il jette un coup d'œil à Tanguy qui prend l'air du coupable. Simon s'en étonne, mais oublie instantanément, trop avide de vider son sac. Il s'appelait Yvon. Un nom vraiment à la con pour nous gamins. Un type sans relief. Le copain de collège, dont tu oublies totalement l'existence l'année suivante. Un grand sec. Une coiffure avec « oreilles dégagées pour mon fils, s'il vous plaît, monsieur ». Un regard de grand flippé. Des chemises bon marché. Des pantalons de velours à grosses côtes l'hiver, à petites côtes au printemps. Une parka bleue avec une encre blanche dans le dos. À la récré, il lisait dans un coin. Il ne se mélangeait jamais aux autres. Les filles ne l'intéressaient pas. Il était invisible, comme en classe d'ailleurs. Il s'asseyait toujours en périphérie. Personne n'allait le rejoindre. Même les profs ont fini par l'ignorer. Il n'attirait pas la sympathie, et en retour, il ne donnait rien. On ne savait rien de lui. C'était un mutant. Il y avait ce jeu. Vous vous souvenez, j'allais en parler hier quand on a entendu ce cri. Ce jeu consistait à balancer une canette sur un connard, signal de la baston. Un jeu idiot, brutal, organisé par des cinglés. Et j'en étais. Tu parles que j'en étais. Tout ce qui était violence m'attirait. Plus tard, je me faisais toujours une joie de jouer aux casseurs pendant les manifs, de harceler les skins dans les rues, de gifler un chauffeur de bus pour faire rire mes potes. Alors, une bastonnade, tu parles que ça me disait. Surtout quand il s'agit d'Yvon. On lui est tombé dessus comme des sauvages. Tous le détestaient, sans raison valable, sauf qu'il nous insupportait avec ses manières de se la jouer solitaire. Pendant son lynchage, je n'ai pas donné ma part au chien, et je n'étais pas le plus méchant. Le SAMU est intervenu. Certains des agresseurs ne sont plus revenus au collège. Ça a permis de calmer les parents d'élèves. Le soir de la bastonnade, je me suis mutilé le bras. Je voulais faire sortir le double qui était en moi. Heureusement, mes parents ont compris à temps que j'allais très mal. C'est comme ça que j'ai commencé une psychothérapie. Son regard se fixe sur Antonin, qui écoute sans perdre une miette la confession de Simon. « Je n'ai jamais revu le type qu'on a battu, et tu peux me croire que je m'en veux terriblement. » Un ado est à la croisée des chemins sur le plan du mental. Soit tu vires sociopathe, et tu vas rejoindre les punks à chiens dans la rue, ou bien tu comprends ce que tu es, tu t'acceptes, mais tu paies. La psychothérapie m'a fait du bien, on ne m'a pas jugé. Et pourtant je ne sais toujours pas l'étendue du mal que j'ai commis. On ne m'a pas permis de dire pardon. » Soudain, Tanguy éclate en sanglots. Antonin s'arrache de sa posture d'impérator décrié et considère Tanguy avec des sentiments mêlés de surprise et de crainte. La crise de son camarade est de mauvaise augure. Simon remonte la fermeture éclair de son Gore-Tex. Avec l'humidité qui s'infiltre, la température ne cesse de chuter à l'intérieur. Tanguy, qu'ils connaissent comme incapables de concéder, ne serait-ce une bribe, la moindre faiblesse à la sensiblerie, renifle comme un enfant. Il expire exagérément à plusieurs reprises. Puis il montre un rictus déplaisant, conscient que les deux autres l'observent. Ils sont si proches les uns des autres dans la tente que les sensations prennent des proportions considérables. Antonin a flanché, puis Tanguy. Ce grimpeur, fait de métal inerte, s'est
carrément vautré dans le flot d'émotions remontant à la surface. Seul Simon supporte le choc émotif. Sa psychothérapie en est la cause, se convainc Antonin.
« Ça va ?» dit Simon. « Ouais, ouais, c'est bon, » répond Tanguy.
« Tu es sûr ?»«
Ouais, ouais, ça va aller. J'ai eu comme un coup de cafard. Je commence à flipper ici. Il faut qu'on se taille. Antonin !»
Antonin tressaille à peine. Remuer le passé l'a essoré.
« Antonin, on se tire ?»«
Hé, hey, Antonin !»
appelle à son tour Simon.
« T'en dis quoi? On met les bouts ?»
Quand une violente détonation les fait sursauter, Antonin sent une main glacée empoigner son cœur et qui le serre de plus en plus fort. Ses mâchoires claquent comme s'il avait froid. Il se met à suer abondamment. Des grincements longs et angoissants résonnent. Les yeux de Simon vont d'un moment à l'autre jaillir de leurs orbites tant ils les écarquillent. Il ressemble à un aliéné en crise de possession. Il voudrait hurler, mais sa gorge est nouée, sa langue desséchée collée à son palais, et sa poitrine s'est enfoncée comme sous l'effet d'une implosion. Des claquements se produisent, des cris stridents retentissent. Il semble être émis par une gorge fabuleuse. Puis les craquements se rapprochent très clairement. Ils sont si forts que les trois garçons n'entendent plus la pluie marteler la toile de tente. Tanguy halète comme un petit chien assoiffé après une course-poursuite. Il est rubicon. Il pousse des petits glapissements de terreur, persuadé de vivre ses derniers instants.
« Dehors !»
hurle à plein poumon Antonin. Avec une énergie insoupçonnée, il est parvenu à se mépriser et à se saisir de son laguiole avec lequel il lacère la toile. Soudain, le sommet de la tente se fend en deux sur une cinquantaine de centimètres sous la poussée d'un objet au bout effilé. La chose se fiche dans le sol avec une force inouïe. Par chance, elle n'a touché personne. Bien que tétanisé par la surprise, il constate que la chose a la pâleur d'un os blanchi par le soleil. Sa forme est conique, un peu courbe, et sa section a le calibre d'une cuisse d'homme. Dès que l'espèce de pieu a frappé le sol, les cris au dehors ont cessé. L'eau s'engouffre par la déchirure. Comme les garçons restent paralysés par l'indicible, ils sont trempés en un rien de temps. Brusquement, le pieu se met à s'enfoncer dans le sol avec une facilité déconcertante, et à mesure qu'il pénètre dans le socle rocheux de la forêt avec des crissements sinistres, sa section devient de plus en plus grosse. Un hurlement crève l'air très haut au-dessus de leur tête. Simon pousse le cri qui ne voulait pas sortir depuis le début de la scène.
« Dehors !»
crie à nouveau Antonin. Il se jette à travers une ouverture qu'il a pratiquée avec son couteau. Il est rejoint aussitôt par ses deux camarades qui aboient de terreur en essayant de s'extirper de la tente. La peur au ventre, Antonin bondit sur ses pieds et se précipite intuitivement en direction du torrent. Dans la noirceur de la forêt, les frontales se fraient un chemin parmi les arbres. Parfois, l'une d'elles semble choir sur le sol, accompagnée d'un grognement de douleur, puis retrouve sa hauteur initiale et reprend de la vitesse, attirée irrésistiblement par le halo sautillant des deux autres. Le débit du torrent s'est considérablement accru après les trombes de l'orage. Ils descendent le cours d'eau en pataugeant avec une énergie hors du commun. Ils trébuchent plusieurs fois, se relèvent, chancellent encore. Ils ont l'impression de courir dans une mélasse. Bien que douchés par la pluie et les chutes dans l'eau, ils ne ressentent pas le froid. Au contraire, ils pensent ruisseler de sueur, et la crainte d'une mort imminente annihile la douleur provoquée par les innombrables chutes. Ils parviennent enfin à la confluence. La clameur provenant des gorges leur est familière. Malgré les nuages, la retenue d'eau luit faiblement. Chaque vaguelette rend les reflets d'une lune crayeuse. Les garçons distinguent le déversoir avec sa forme sinistre en V. Par là-bas, point de salut. Ils décident de remonter la rivière et se retrouvent très vite sous la veine d'un affleurement rocheux que le courant a creusé pendant des milliers d'années. il s'effondre sur une épaisse couche d'aiguilles de pin déposées par les crues antérieures. À cet instant, leur principal souci est d'être au sec. Ils ont la nette impression que la chose a été semée.
Quelqu'un a vu quelque chose ?
Simon est couché sur le dos et complètement éreinté. Il a mal partout, aux genoux surtout.
Que dalle ! Et franchement, j'ai pas cherché à regarder.
Avoue Tanguy, moulu de fatigue. Il a une estafilade sur la tempe.
Je ne comprends pas.
Antonin a aussi son lot de courbatures et d'ecchymoses.
La forêt nous épargne encore. Tu veux plutôt dire que cette chose a failli nous tuer ?
Proteste Tanguy.
Si elle avait voulu nous tuer, ce serait déjà fait. Ce truc blanc avait une forme courbe. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça ressemblait à une énorme griffe.
Oui, abonde Simon. J'ai eu le temps de m'en apercevoir et je me suis fait la même réflexion. Mais pour moi, ce n'était pas une griffe.
Ah bon ?
Et quoi alors ? Demande Tanguy, de plus en plus éprouvé par les événements.
À une dent. Putain de merde, faites chier !
Lâche Tanguy.
Je commence à en avoir ma claque de ce foutu merdier.
Mais brusquement, il ne souffle mot, conscient que rien ni personne n'est responsable de son cauchemar. Il se trouve impuissant dans sa situation, et même trop fatigué pour piquer une crise de nerfs. Il s'effondre lui aussi sur le tapis d'aiguilles, le moral en berne. Antonin cherche à le réconforter.
Une dent ou une griffe, on s'en branle. Dès qu'il fait jour, on dégage la zone.
J'ai déjà entendu ça quelque part.
Ta gueule, Simon !
Antonin tend Simon comme un éducateur. Il lui fait un signe de tête en direction de Tanguy. Ce dernier a enfoui son visage dans ses mains et demeure prostré en position fœtale. Simon s'assoit sur le tapis d'aiguilles et se frotte les genoux.
Bon Dieu qu'ils me font mal! Je me suis viandé au moins 20 fois dans la forêt et au moins 40 dans la flotte. Hé, Tanguy, t'as une putain de marque à la tête? Tu veux que je regarde? Ça saigne, fils!
Tanguy porte sa main là où il a mal.
Ça ne m'étonne pas, dit-il avec une voix morne. Je me suis pris une souche ou un truc comme ça en courant.
Il regarde à la lueur de sa lampe sa main pleine de sang. Il est comme dépourvu d'affect, un vrai zombie.
« Oh, ça va ?» fait Antonin. « Tu as mal à la tête ?»«
Non, pas mal. » Et il éteint sa lampe. Simon regarde Antonin, puis Tanguy à nouveau.
« Tanguy, ça va ou quoi ? Si t'as fumé en cachette, t'es un vrai enculé. »
Aucun rire ne se manifeste, car personne n'a le goût à la rigolade. Tanguy demeure couché sur le côté.
« Simon, éteins ta lampe. On peut encore avoir besoin de piles. »
Il montre du doigt leur copain couché et il met son index devant ses lèvres comme pour lui signifier de se taire et d'attendre. Dissimulés dans l'ombre protectrice du rocher, ils observent la rivière et ses reflets d'argent terne couler à leurs pieds. En face, la berge est plongée dans le noir le plus complet et fait penser à un vide sidéral. Et même si le bouillonnement de l'eau a une connotation menaçante dans leur situation actuelle, ce bruit liquidien apaise leur angoisse. Quelques minutes plus tard, la prémonition d'Antonin se confirme. « J'ai violé une fille. » La phrase lapidaire atteint Simon et Antonin comme un missile. Tanguy se racle la gorge et continue avec une voix d'outre-tombe. Zineb m'avait largué parce que j'avais quitté la cité. On se voyait de moins en moins, et elle commençait à bachoter sérieusement. Elle m'a dit ça dans la cage d'escalier, là où on s'embrassait avant. Pour ses frangins, j'étais réglo. J'étais son régulier, quoi. Et je pouvais la peloter dans la cave sans être dérangé. Quand Zineb disait un truc, tu pouvais être sûr qu'elle s'y tenait. Alors, quand elle m'a dit que c'était fini... La voix de Tanguy s'étrangle. Ses amis l'entendent soupirer dans cette nuit insolite. Puis il reprend. J'ai marché entre les barres d'immeubles, sans savoir où aller. Un type que je connaissais m'a sifflé depuis une cage d'escalier et m'a fait signe de venir. Il m'a entraîné dans l'escalier du sous-sol. Dans un box, il y avait 6 mecs et une fille. Pas besoin de raconter ce qu'ils lui faisaient. Si la scène s'était passée la veille, je les aurais massacrés. J'étais déjà bien bâtie à l'époque, et je me serais fait sans peine les 6 gars, plus le rabatteur qui collectait l'oseille. Mais là, je ne sais plus ce qui s'est passé. La fille était une beurette et ressemblait étrangement à Zineb. J'y suis allée, parce qu'au fond, je voulais me venger d'elle. J'avais la haine. Enfin, j'en sais rien, putain de merde. Simon siffle de surprise. En gros, tu as participé à une tournante. Un viol collectif, corrige Tanguy. Épargne-moi tes subtilités de langage. J'ai violé une fille, point à la ligne. Il se redresse sur son séant. Sa silhouette se découpe sur la légère phosphorescence de la rivière. Il n'y a pas que ça, objecte Antonin. Dans le noir, il devine que Tanguy et Simon l'observent, ou du moins essaient de percer l'obscurité. L'ambiance est dans l'attente d'un dénouement. Antonin, qui a conscience de n'avoir pas tout révélé de son histoire, a la ferme conviction que ni Simon ni Tanguy n'ont fini la leur. « Quoi ?» grogne Tanguy au bout d'une minute avec une pointe d'agressivité. « Après, que s'est-il passé ?»« Après quoi ?» fait semblant de ne pas comprendre son interlocuteur. « Arrête de déconner, Tanguy. Je sais qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond chez toi. Alors accouche, s'il te plaît. » « Encore ta théorie fumeuse sur la profanation !» persifle l'autre avec un mépris presque palpable dans l'obscurité. « Ouais, pauvre con !» répond du tac au tac Antonin, qui n'entend pas se laisser impressionner. « Après ce que tu viens de raconter, tu ferais bien de ne pas ouvrir trop grand ta gueule. »«
Eh oh, c'est pas fini !»
intervient à temps Simon. Il sait Antonin capable de balancer son meilleur copain d'escalade dans la flotte.
« C'est pas le moment de se chamailler. Tanguy, laisse parler, Antonin. De toute façon, on n'a que ça à foutre cette nuit. Et personne t'empêche de spéculer à ton tour. »
Un silence malsain s'installe. La tension entre Tanguy et Antonin retombe instantanément. Entre ces deux-là, les réactions sont parfois exacerbées à cause de la fatigue, de la peur ou de l'échec d'une ascension. Mais ils n'en sont jamais venus aux mains. Tanguy craint trop Antonin pour cela, et ce dernier garde une profonde affection pour son vis-à-vis. « Alors ?» continue Simon sur le ton de la diplomatie. « Il s'est passé un truc après le viol ?» Et avant qu'il ne laisse parler Tanguy, il se tourne vers la silhouette d'Antonin. « Dis, tu veux en venir où, au juste ?» Antonin crache dans l'eau avant de parler. Nous avons commis tous des actes graves, plus graves que ce qu'on en a dit.
Ok,
coupe rageusement Tanguy. Juste après mon passage sur la fille, un des mecs a fait une vanne, les autres ont rigolé. J'ai pris le gars par le col et je lui ai explosé la tronche avec un coup de boule. Je crois qu'il a perdu la vue d'un œil.
Très bien,
réplique Antonin avec une pointe de défi et un besoin irrépressible de se libérer. « Je vais te raconter à mon tour ce qui s'est passé ensuite chez nous. » Un infirmier venait le matin pour sa toilette et le soir pour l'administration de sa morphine. Il tolérait encore que sa femme l'habille en fonction du moment de la journée. Il exigeait après la sieste qu'elle lui passe une chemise noire, sa cravate en soie, un pantalon en tergale et ses chaussures en cuir aux fins lacets, bien qu'il restait au lit à cause de sa paraplégie. Il refusait le fauteuil et de voir son fils. Il parlait à peine. Du bout de sa canne, il grattait une porte de l'armoire comme une petite souris affairée dans un grenier. C'était sa seule occupation, et il s'y adonnait avec une lueur déplaisante dans le regard. 8 semaines après l'incident, il contracta une phlébite qu'il refusa de faire soigner. Le caillou grossit, envahit tout le réseau veineux de la jambe. Un fragment se détacha, puis deux, puis trois, et ce fut bientôt une pluie de météorites qui embolisa les deux poumons. Il expira dans le drapeau du Liban, dont il s'était ceint pour accompagner son agonie. Antonin s'est exprimé avec une telle tristesse dans la voix que ses copains en sont bouleversés, autant par ce qu'ils viennent d'apprendre que par l'infinie douleur qu'ils manifestent. La rivière froufroute près d'eux sous les aiguilles de pin. Ce son presque agréable tranche avec l'atmosphère poisseuse qui règne sous la veine. Simon est parcouru par un long frisson. L'humidité de ses vêtements commence à devenir carrément désagréable. Il pousse un soupir désenchanté. Tu penses que...
Je ne pense pas, je sais.
La porte du placard...
Sur la porte du placard, il a gravé un œil, si tu veux savoir.
L'air qu'inspire Antonin lui brûle les bronches. Il a une telle envie de craquer qu'il sent le sol vaciller sous lui.
Je pensais que je n'aurais plus à en parler, surtout pas dans cette putain de forêt.
Simon se résout à passer à table. Il prie pour aller jusqu'au bout. Ressasser cette histoire, c'est comme assassiner une deuxième fois Yvon et l'ado que j'étais. La mémoire fait ce qu'elle veut, et jusqu'à aujourd'hui, elle a été parfaite. Les psys insistaient toujours sur mes désordres intérieurs, la difficulté de m'accomplir, l'affectif et tout le tralala. Un freudien mettait tout ça sur le compte de la coqueluche de ma mère que mes grands-parents avaient négligée. Les rapports fusionnels avec ma mère viendraient de là et m'auraient perturbée. Avec les psys, on parlait toujours de ma personnalité, jamais des événements. Le pénal, il s'en fichait comme d'une guigne.
Simon reprend une longue respiration. Sa voix commence à chevrotter.
Yvon est mort à cause de nous. Et le psy me gonflait avec l'affectif et la coqueluche.
C'est pas vrai.
Il refait une pause pour se dominer.
On l'a tué à coups de pied.
Il ferme les yeux comme un pénitent agenouillé devant le Golgotha.
Il est mort à l'hôpital en réanimation. L'autopsie a révélé une malformation cardiaque qui a pu contribuer au décès. Il n'y a pas eu plainte. On n'a jamais su pourquoi.
Sa voix n'est plus qu'un filet. Ses dernières phrases deviennent inintelligibles. Sous la veine, l'obscurité noie les ombres. Les trois naufragés se repèrent à leur respiration, au crissement des aiguilles sous leurs fesses ou à leur ombre chinoise quand un rayon de lune se réfléchit sur l'eau agitée. Tout autour, des bruits réconfortants parviennent jusqu'à eux. Des grenouilles croassent, des rapaces lancent leur appel, des poissons bondissent hors de l'eau. Après avoir terminé leur mue, des insectes s'ébahissent de la stridulation de leurs ailes. Malgré l'humidité laissée par la pluie, la nuit redevient douce. L'atmosphère de printemps que les garçons avaient humée à pleine narine lors de leur arrivée s'insinue à nouveau dans leur esprit. D'ailleurs, après l'intervention de Simon, ils commencent à somnoler. Sauf Tanguy, qui a plongé carrément dans un puits vertigineux.